Maintenant, le moment de la prédication et notre guide de lecture biblique de l'EHPAD nous propose aujourd'hui, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, les versets 27 à 38. Mais je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne lui refuse pas non plus ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Des pécheurs aussi prêtent à des pécheurs pour qu'ils leur rendent la même somme. Au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les enfants du Dieu Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez plein de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne portez pas de jugement et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez et Dieu vous pardonnera. Donnez et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée, secouée et débordante. La mesure que vous employez pour mesurer sera aussi utilisée pour vous. Je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que ce texte biblique-là, il est riche. On pourrait s'arrêter sur quasiment, enfin on va un peu s'arrêter sur chaque verset, relativement. Mais je voulais aussi faire le parallèle, et j'en ai un petit peu parlé hier au bibliologue, mais vous inquiétez pas, il y a une nouveauté par rapport au bibliologue. Il y a le diocèse catholique de Paris qui a fait une chaîne YouTube qui est de toute réflexion et intelligence et spiritualité, et ils ont interrogé donc, dans cette chaîne qui s'appelle Les Lueurs. Ils ont interrogé Ginette Kolinka. Je ne sais pas si ça vous évoque, si le nom vous évoque. Ouais, Christiane vous dit oui. Ginette Kolinka est une des rares encore rescapées d'Auschwitz. Et donc elle est interviewée pendant une heure par ce journaliste catholique. Je dis catholique hein, parce que c'est su que cette chaîne est clairement catholique. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'à un moment, vu que c'est une chaîne spirituelle aussi, il lui demande, mais est-ce que vous croyez encore en Dieu? Et elle dit clairement et simplement, elle est juive de tradition, mais elle dit clairement, je ne suis pas croyante. Et ce qui ressort aussi de cet entretien, c'est qu'elle le dit elle-même, tout ce qu'elle a vécu à Auschwitz, tous les deuils qu'elle a dû vivre durant cette période de la guerre, elle est comme finalement anesthésiée des émotions face au mal. Et si je vous en parle, c'est parce que justement dans notre texte, on ne nous dit pas, avec Jésus, qu'on est amené à avoir la paix en étant anesthésié face au mal. On peut tout à fait comprendre hein, pourquoi elle est anesthésiée par tout ce qu'elle a vécu. Mais je voulais juste faire un petit peu le parallèle avec ce que Jésus nous dit. Et il nous dit justement, finalement, de ne pas rester dans le mal qui nous a été fait. Et de reprendre finalement le pouvoir sur le mal qui aurait pu ou qui nous a été fait. Et je me permets de faire ce parallèle-là parce qu'on sentait dans la question du journaliste, il lui a dit clairement, comment est-ce que vous pourriez encore croire en Dieu après tout ce que vous avez vu et vécu? Et c'est un peu la question qu'on avait aussi hier au bibliologue, c'était quand il y a des épreuves qui nous arrivent dans la vie, comment est-ce qu'il est encore possible de croire en Dieu? Et alors, je fais aussi le lien avec un texte biblique qu'on a vu hier au bibliologue aussi. Alors, je suis désolée, la thématique elle est peut-être un petit peu lourde ce matin. C'était, on a relu le texte de Samuel 13, comme ça, ça va pas vous dire grand-chose. Si je vous parle... Ah, les catéchètes, elles savent. Si je vous parle de Tamar, est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Tamar, c'est un personnage biblique. Hein, pardon. Non. Oui, je vois la confusion, mais non, justement pas. Ouais, de David.
De Juda.
Non.
De Ruben.
Ah, il y a un mélange celui-là.
Non, Tamar, c'est celle de Jéricho.
Non, non plus. c'est pas grave, vous inquiétez. On mélange vite toutes les femmes dans la Bible. Tamar, en fait, c'est une des filles de David. Dans les nombreux enfants de David, c'est une des filles de David. Et voilà, non mais justement, c'est un texte biblique qu'on ne raconte pas souvent. Et vous allez vite comprendre pourquoi. On l'a vite compris hier au bibliologue. Tamar, c'est une des filles de David, qui va être violée par son demi-frère. Et le texte biblique le dit clairement. Il emploie le mot du viol. Et je vous en parle aussi, et je fais le lien entre toutes ces épreuves et ces violences qu'on peut vivre dans nos vies, puisque c'est ce qu'on a vu hier, et je vous le retrace rapidement. Tamar donc, se fait violer par son demi-frère. On pourrait espérer, en tout cas, que son père, le roi David, et que son demi-frère, il y avait déjà des recompositions familiales à l'époque, donc c'était compliqué, avec la polygamie en plus. En tout cas, que son frère et son père prennent sa défense. Et on s'est rendu compte hier que dans le texte, pas vraiment. On lui a dit, c'est vrai que c'est mal ce qu'il t'a fait, mais surtout, tais-toi, et puis vis maintenant avec ce qui t'est fait. Et déjà à l'époque, hein, de la Bible. Et c'est pour vous rappeler que Tamar a vécu donc ce viol, mais ensuite, c'est ce qu'on a redécouvert dans le texte hier, elle a vécu l'humiliation publique. Et encore ensuite, elle a vécu le rejet de sa famille. Vous avez trois blessures successives, en fait. Et c'est ce dont on parlait hier. La culture du viol à l'époque de l'Ancien Testament, manifestement, n'a pas beaucoup évolué. Elle évolue tout doucement, mais très lentement aujourd'hui. Et c'était aussi pour vous dire qu'il y avait cette injonction à ne pas parler. Parce que dans le texte, on l'a revu hier, c'est bien dit, surtout, c'est grave hein, ce qui t'est arrivé, mais n'en parle pas trop, n'en fais pas trop... étalage hein, public. Et finalement, ça rejoint aussi Ginette Kolinka. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est qu'elle est revenue d'Auschwitz, elle est revenue avec tout ce qu'elle avait vécu de difficile, et elle dit elle-même, pendant près de 30 ans, 35 ans, elle n'en a parlé à personne. Parce qu'elle a dit finalement, dès que j'en parlais, les gens doutaient de ce que j'avais pu vivre. Et donc c'était finalement encore plus dur de réexpliquer que de se taire. Et donc, elle s'est tue pendant 30 à 40 ans. Et bien sûr, maintenant, elle a recommencé à prendre la parole. Parce qu'elle a quand même 100 ans. Ginette Kolinka, pardon, j'ai oublié de le dire. Elle a 100 ans. Et ça fait plus de 30 à 40 ans qu'elle fait le tour des collèges et des lycées pour justement redire ce qu'est le mal absolu, comme disait Anna Arendt aussi. Enfin, le mal banal aussi. Et qui peut toucher tout humain. Si je vous parle de tout ça, c'est que ce texte, en fait, d'aujourd'hui, il nous interroge dans notre rapport à la violence et à la non-violence. Le premier verset, je vous le rappelle, c'est « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ». On est d'accord. Je trouve aussi que c'est particulièrement dur. Parce que, en fait, aimez vos ennemis, humainement, je dirais même émotionnellement, c'est difficilement possible. Je ne sais pas si je ne vais pas vous faire ressentir trop de choses négatives ce matin, mais si vous essayez de renoncer à une petite blessure qui vous a vraiment énervé, aimer son ennemi, c'est quand même pas ce qui nous vient naturellement, vraiment. Et je crois que ce que Jésus veut nous dire par là, en nous invitant à ça, c'est à justement sortir de notre blessure, mais pas sortir comme quand on dit à Tamar, tu as souffert, mais maintenant tais-toi. C'est sortir pas en l'oubliant, pas en la niant, mais finalement à essayer de prendre un autre point de vue. Pas forcément celui qui vous a fait du mal, on est bien d'accord. Mais en tout cas, à essayer de se dessaisir de ce qui vient de nous arriver pour justement arriver à le travailler en nous. Et puis, quand même, il n'est pas si dur que ça. Jésus, après, il nous dit « Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. » Alors, vous allez me demander pourquoi je dis que ce n'est pas si difficile que ça. Parce que je trouve que bénir ceux qui vous maudissent et prier ceux qui vous maltraitent, vous pouvez encore le faire à distance de la personne qui vous a maltraité et maudit. Vous voyez ce que je veux dire ? On ne vous demande pas de vous retrouver directement face à la personne qui vous aurait fait du mal. Et je crois que Jésus nous dit ça parce que c'est la première action possible à faire pour suivre cette non-violence demandée par Dieu et qui ne nous demande pas d'être face à l'autre. Et puis, quelque part, c'est aussi déjà inclure l'autre dans notre réalité, ce que je disais justement, pour faire baisser un petit peu la charge émotionnelle de ce qui vient, de ce qui peut nous arriver. Et quelque part, alors c'est une lecture, hein, c'est une interprétation de ma part, quelque part, je me demande si Jésus, par là, ne nous dit pas aussi de sortir un peu de notre position de victime. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une théorie psychologique. On peut facilement se retrouver soit dans la position de la victime, soit dans la position du bourreau, soit dans la position du sauveur. C'est plus sympa d'être dans la position du sauveur, hein. On a l'impression d'être utile. Dans la position de la victime, finalement, on peut se faire plaindre. Et dans la position du bourreau, ben, on est tout puissant. On ne reste pas forcément dans l'une ou dans l'autre, hein. Ça peut changer entre les trois. Et je me demande si justement, quand Jésus nous dit ça, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est aussi pour dire que le contrôle sur ce qui arrive dans nos vies, finalement, il est entre les mains de Dieu d'abord, et puis ensuite un petit peu entre les nôtres, mais pas forcément dans celui qui nous a asséné la violence. Et que ça, c'est quelque chose, déjà, d'important pour avancer. Et puis, donc, ensuite, le verset... Alors là, pour le coup, je peux comprendre que vous soyez très choqués. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne lui refuse pas non plus ta chemise. Donne à quiconque te demande quelque chose, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, ne le réclame pas. C'est la fameuse autre joue de Jésus dont on a déjà parlé ici aussi au culte. Et au-delà de l'aspect choquant de se dire « on vient de me taper, il faut vraiment, littéralement, que je tende l'autre joue pour me faire retaper », je ne pense pas que Jésus nous dit de nous faire retaper quand on a déjà été tapé une première fois. Je pense que ce n'est vraiment pas ce qu'il veut nous dire. C'est que, et ça se voit avec la théorie de la non-violence aussi développée par Gandhi, mais c'était déjà dans les propos de Jésus, c'est que finalement, c'est une manière, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois aussi ici, de désarmer la violence de l'autre. Parce que le but, en fait, quand Jésus nous dit « on te tape là, tends l'autre joue », c'est finalement de faire réagir l'autre en face et qui se dit « c'est quand même un petit peu étrange, je me ou la tape et il me tend encore l'autre joue ». On peut espérer un sursaut, on peut espérer, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, on peut espérer un sursaut d'humanité en face. Et que justement, aussi, celle qui est frappée littéralement ou non littéralement, symboliquement, finalement, elle sort aussi de ce positionnement de victime et elle reprend sa responsabilité. Et finalement, elle essaie de dire à l'autre « qu'est-ce que tu viens de faire là, en fait ?» Sans prendre la responsabilité de l'acte de l'autre, qu'on soit bien d'accord. Et le texte continue « Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. » Je crois que si on devait enseigner une chose à nos catéchumènes, aux chrétiens en général d'ailleurs, mais aux humains même d'ailleurs, faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et bien, si cette phrase, on se la rappelait à chaque parole, à chaque acte qu'on doit faire, peut-être que l'humanité irait un petit peu mieux. Je ne vais pas refaire la géopolitique d'aujourd'hui, mais si on se mettait de chaque côté dans les conflits actuels aujourd'hui, peut-être que ça irait un peu mieux. Et finalement, je crois que Jésus nous dit ça pour nous aider à prendre de la hauteur dans toutes les doctrines, les idéologies, les dogmes, il y en avait déjà aussi à l'époque, hein, dans toutes ces doctrines-là qu'on peut avoir autour de nous, et finalement de remettre l'humain au centre et pas forcément la pensée, ce qu'il serait bien de faire. Je vous prends un exemple par rapport au viol de Tamar. Si il avait été question que Tamar soit enceinte à la suite de ce viol, l'éthique catholique, la dogmatique catholique, il dirait la vie est sacrée, on va garder cet enfant. L'éthique protestante serait peut-être un peu plus probablement nuancée et se poserait la question, et c'est l'éthique protestante libérale sur ce sujet, est-ce que pour l'enfant qui va naître, est-ce que pour la femme qui va donner naissance à cet enfant, est-ce que c'est possible finalement, est-ce que cette vie est possible? Je ne donne pas de réponse, hein, je ne dis pas oui ou non, mais je dis qu'en tout cas ça nous pose la question, qu'est-ce qu'on ferait? Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Si vous étiez dans cette situation, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Pas aimeriez au sens ce serait sympa que ça m'arrive. Qu'est-ce qui serait finalement aussi le moins pire? Et puis enfin, il y a les derniers versets, les versets 32 à 35. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien seulement à ceux qui vous font du bien, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez qu'ils vous rendront, pourquoi vous attendre à une reconnaissance particulière? Et il continue, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans rien espérer recevoir en retour. Et vous obtiendrez une grande récompense et vous serez les enfants du Dieu Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Finalement, Jésus nous dit que faire tout cela pour un ennemi, forcément, nous demande un effort. Et Jésus en est conscient. Et qu'il nous dit que la reconnaissance qu'il va nous être donnée et la satisfaction, c'est qu'on peut faire entendre à l'humanité qu'elle peut avoir un supplément de prise de hauteur sur ses émotions. Et que finalement, c'est en essayant d'appliquer ces versets qu'on en revient au mot d'ordre d'aujourd'hui, qu'on peut faire la paix, essayer en tout cas, d'apporter de la paix et de la joie autour de nous, même dans la blessure. Et j'en reviens donc à Ginette Kolinka. Je pense que si finalement, de ce que j'ai entendu, si finalement elle a accepté d'en parler, au bout de 40 ans quand même de silence, c'était pour dire aussi que ce mal, bien sûr, ne se reproduise plus. Mais tant que le mal n'a pas été verbalisé, il y a toujours, tant qu'il reste dans le non-dit, il y a toujours le risque qu'il se répète. Et finalement, au bout de 40 ans, elle a compris que passer au-dessus de cette blessure, c'était finalement pas la solution, et que la solution, c'était de partager que l'humain peut rentrer dans le mal absolu, dans le mal banal, au final, très facilement, et que c'est notre éthique humaine, mais nous aussi chrétiennes, de toujours nous interroger, faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Et les personnes face auxquelles elle était à Auschwitz n'avaient même plus ce niveau d'humanité. Et justement, pour ne plus avoir ce niveau d'humanité, elle le dit très bien, et on le sait, ils déshumanisaient les personnes qu'ils avaient devant eux. Et c'est justement ça, c'est que tant qu'on perd ce sens humain, la violence peut arriver, clairement. Et dans ce monde, je sais, j'arrête pas de répéter, mais dans ce monde où les idéologies et les pensées montent, remettre l'humain au centre, c'est vraiment ce qui, je peux, j'espère, pourra un peu sauver tout petit peu l'humanité. Et enfin, je m'arrête juste sur le dernier verset, sur les deux derniers versets, qui nous disent en fait de ne pas condamner et de ne pas juger. Dit comme ça, ça paraît très simple. Sauf que vous reprenez vos discussions de chaque jour et vos interactions humaines de chaque jour, je vous promets que toutes et tous, à un moment, on a pu juger ou condamner l'un ou l'autre, sans même que ce soit clairement conscient parfois. Mais que c'est de nous dire à chaque fois, avant qu'une parole de condamnation ou de jugement sorte de notre bouche, on peut difficilement l'empêcher totalement, ça va nous arriver humainement, mais que à chaque fois de s'interroger, est-ce que c'est vraiment ce qu'on aurait voulu que ce soit fait pour nous ou que l'autre nous juge. Et quelle est la meilleure solution? Je ne dis pas qu'il faut taire les choses, hein. Je dis juste qu'il faut les dire autrement. Donc voilà, je vous invite à cheminer. Je vous répète encore une fois, une dernière fois ce verset. Faites pour les autres exactement ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. Amen.